Bon début de matinée, il est 7h. Après la petite chorégraphie, c'est Isabelle Bertolini qu'on retrouve pour le journal. Bonjour Isabelle.
Bonjour délateur. Chablais Agglo veut investir 70 millions de francs supplémentaires. Les communes d'Aigle, Baie, Aulon, Colombey-Murat, Montet et Massonger, ainsi que les cantons de Vaud et du Valais ont signé hier une convention dans ce sens. Ce plan d'agglomération contient 75 mesures, dont une quarantaine concerne la mobilité. En 2016, la Confédération avait épinglé Chablais Agglo 3 pour sa vision de la mobilité trop centralisé sur les véhicules individuels motorisés. Responsable du projet, Pierrick Maire détaille les adaptations qui ont été apportées à ce sujet.
Alors jusqu'à maintenant, dans le PA3, on avait proposé de passer comme un peu une épine dorsale le long du Rhône et que toutes les communes viennent se greffer sur cette épine dorsale. On s'est rendu compte que par exemple, si on veut aller de Aigle à Baie, il faut rejoindre le Rhône, ensuite longer le Rhône et retourner sur la commune suivante, alors que là on a des axes beaucoup plus directs, ce qui fait que les gens peuvent en fait faire des gains de temps et d'énergie pour se déplacer dans les communes directement entre les localités. Donc ça c'est le premier point, et après on espère que ce réseau structurant permettra vraiment d'amener une ramification à l'intérieur des communes pour vraiment avoir un réseau de plus en plus complet au fur et à mesure des projets d'agglomération.
Les mesures qui correspondront aux critères pourront être cofinancées entre 30 et 50% par la Confédération. À noter que le projet Chablais Agglo 4 contient pour la première fois un volet énergétique basé sur des principes de l'économie circulaire, un sujet signé Bertrand Girard. Transformer le secteur énergie, électricité et développement durable de Montet en une société anonyme sous contrat de fermage, à savoir financée par les fonds publics. C'est l'une des décisions que devait prendre hier le Conseil Général Montaisan. Un changement qui pourrait avoir des conséquences positives si l'on écoute Fabien Girard, municipal Montaisan, en charge de l'électricité, énergie et développement durable justement.
Le point principal, c'est bien sûr l'agilité opérationnelle. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, il y a tout d'un coup d'énormes projets qui demandent vraiment une réflexion large, bien sûr, de notre part en tant que gestionnaire de réseau de distribution, mais aussi des réflexions avec les installateurs électriciens, avec les chauffagistes, avec les installateurs de panneaux solaires. Et aujourd'hui, lorsqu'un client souhaite monter un gros projet, pour nous, on est vraiment face à un mur si on doit tout d'un coup engager vraiment des démarches publiques envers tous ces installateurs, avoir des procédures gré à gré. Et les délais sont interminables, alors que la concurrence, justement, eux, peuvent en une semaine faire une offre vraiment globale. Et nous, l'enjeu, c'est bien sûr d'assurer un maximum d'activités surmontées et aussi donner du travail aux installateurs locaux.
La proposition a été acceptée par le Conseil Général hier soir. La prochaine étape est donc la création de cette société dès janvier 2022, un sujet réalisé par Léa Journaux. Qui peut décider d'autoriser la Suisse à exporter des armes, vers quel pays et selon quels critères? Cette question est au cœur de l'initiative populaire dite correctrice, car elle veut transférer ce pouvoir du Conseil fédéral au Parlement, voire au peuple, en cas de référendum. Le Conseil national en a débattu hier soir et il devrait opter pour un contre-projet. Pierre Dachopement, faut-il permettre au Conseil fédéral de faire des exceptions? Les initiants disent non. La conseillère nationale vert libérale vaudoise, Isabelle Chevalet.
On est surtout humaniste parce que finalement, si on a soutenu l'initiative dès le départ, c'est parce qu'on se dit oui à l'exportation des armes, mais pas n'importe comment. On était très simple avec l'initiative, hein. On a repris le texte de l'ordonnance du Conseil fédéral de l'époque, qu'il avait lui-même édicté lorsqu'il y avait le débat sur l'initiative pour l'interdiction d'exportation des armes. Et on veut simplement que ce texte soit mis dans la loi, parce que chaque fois, sinon qu'il y a une exception, eh bien, c'est trop facile pour le Conseil fédéral de dicter des exceptions.
Propos recueillis par Serge Jubin. Le contenu du contre-projet fera l'objet d'un autre débat au Conseil national demain matin. Le procès des attentats du 13 novembre est entré dans le vif du sujet. Hier après-midi, un enquêteur des services français de l'antiterrorisme a été entendu à la barre. L'homme a fait le récit complet de l'enquête durant 4 heures, coupée à plusieurs reprises par les protestations de l'accusé Salah Abdeslam. L'audience reprend aujourd'hui avec l'audition de la juge antiterroriste belge Isabelle Panou. Les premiers interrogatoires des accusés, eux, ne sont prévus que pour le mois de janvier. Et le premier ministre espagnol veut mener lui-même les négociations avec les séparatistes catalans. Il a annoncé hier qu'il prendrait la tête de la délégation du gouvernement central. Négociations suspendues depuis février 2020 à cause de la pandémie. La prochaine réunion entre les deux camps devrait se tenir ce mercredi et les discussions s'annoncent compliquées. L'exécutif catalan réclame toujours la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance, ce que refuse le gouvernement central. On passe au sport. Les amateurs de course à pied peuvent se réjouir. Les 20 km de Lausanne sont de retour. Après une édition 2020 en ligne, les rues lausannoises vont à nouveau être envahies de coureurs et de coureuses. Pour ce 39e volet de la manifestation vaudoise, plusieurs changements sont à signaler. L'événement se déroulera notamment sur 2 semaines afin d'espacer les départs. Des modifications ont aussi été apportées au parcours. Les derniers mètres seront d'ailleurs plus difficiles qu'à l'accoutumée. Mais les 7000 participants vont-ils remarquer les changements ? Rien n'est moins sûr pour le président du comité d'organisation des 20 km de Lausanne, Patrice Isley.
Alors bon, je ne sais pas si toutes les personnes qui se sont inscrites aux 20 km ont pris conscience que ce ne seront pas du tout les mêmes parcours. Hein. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvions pas emprunter les parcours habituels pour des raisons sanitaires. Donc là, nous avons des parcours inédits qui seront en principe uniques. Ça veut dire qu'on espère bien l'année prochaine retrouver les parcours habituels. Mais là, nous aurons des parcours en site propre. Ça veut dire que nous ne bloquons pas la ville, nous ne bloquons pas de rue, à part les quais d'Ouchy. Et puis, effectivement, La finale va être assez compliquée pour les coureurs et les coureuses, puisque juste avant l'arrivée, ils et elles vont devoir monter la vallée de la jeunesse. Donc là, il y aura un petit exercice final qui sera sympathique. Sinon, le reste du parcours est relativement plat, puisqu'on suit beaucoup les rives du lac et on va tourner vers l'université, le site universitaire. Donc voilà.
Patrice Isley au micro de Ludovic Turin. Les quelques 7000 participants déjà inscrits pour ces 20 km de Lausanne parcourront les rues de la capitale olympique entre le 22 septembre et le 3 octobre prochain. En hippisme pour finir, Steve Garda a remporté le Grand Prix du CSI de Calgary hier. Le Jurassien a triomphé en montant Vénard de Cerisy. Le champion olympique de Londres a devancé les deux Américains Kent Farrington et McLean Ward. De toutes les paires, Garda et le Hongre de 12 ans ont été les seuls à réussir de sans faute. Pour son triomphe dans l'Alberta, le Roman percevra un chèque à la hauteur de 600 000 francs.
Merci beaucoup Isabelle, j'allais m'inscrire pour marcher là, les 20 km, je vais essayer déjà d'en faire. Hein.
Oui, mais je vous ai entendu chanter du Patrick Sébastien, vous pourrez vous reconvertir si jamais.
Merci à vous, on vous retrouve tout à l'heure à 7h30.